Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le réveil culturel. Mon invité ce matin est Laurence Romance, journaliste, auteure, traductrice, c'est ainsi qu'elle signe ses mails. Le mot « rock » n'est pas mentionné, mais tout ce qu'elle a écrit, tout ce qu'elle a traduit, a forcément quelque chose à voir avec le rock. Laurence Romance, c'est d'abord, pour ceux qui se souviennent des années 80 et 90, au fil des pages de Libération, des Inrecuptibles, de Best, une signature, une vie passée à écrire des articles sur le rock, sur les groupes de métal, sur ce qu'on appelait à l'époque la New Wave et tous les bruits émergents des scènes électro-alternatives. Rock critique, c'était son job. Ici aujourd'hui, on peut trouver l'unique autobiographie de Charles Manson, enfin traduite en français aux éditions Séguier. C'est grâce à elle, et pas seulement parce qu'elle en est sa traductrice.
Le réveil culturel. Jeudi, musique.
On va dire que tout a commencé par cette chanson. On va dire ça, Laurence Romance, bonjour.
Bonjour.
Ravi de vous avoir.
Et ravi également d'être là.
Rock critique, ça existe toujours d'ailleurs comme job?
Ça existe toujours, oui.
Mais alors pourquoi vous n'êtes plus rock critique? Pourquoi vous avez pris votre retraite?
Parce que ça a eu payé, mais ça ne paye... Oui, bah, moi je suis devenue freelance environ vers 2007, il y a plus de 10 ans et tout. Et depuis, j'écris encore, hein, mais bon... l'article occasionnel quand j'ai vraiment un gros truc et tout pour les Inrock ou autre, enfin je propose en général c'est des cover stories quand même, le minimum vu mon bagage. Une des dernières fois c'était un truc sur Kurt Cobain où j'ai reconstitué son dernier mois à Paris quasi jour par jour et tout, parce que il se trouve que je connaissais son dealer qui était un ami à moi. Et tous les autres ont fait de la sociologie un petit peu à deux balles sur le grunge, et moi j'avais un truc avec vraiment de l'info, c'est le genre de papier que je vends au Times, au Guardian, enfin à l'étranger. Mais oui, bien sûr, il y a encore de la critique rock, mais il faut plus espérer en vivre, je pense. J'aimerais pas commencer maintenant.
Alors, Les Stooges avec Iggy Pop dans No Fun, c'est votre premier disque, c'est ça qui vous a donné envie, un, d'écrire, deux, de devenir chanteuse, trois, de vivre une vie de rock. Laurence Romance, racontez-nous comment ça a commencé. Vous, la petite fille venue du Pas-de-Calais.
Du fin fond du Pas-de-Calais, ouais, près des marais au Domarois. Je blague pas, il y a vraiment des marais, hein.
Ah oui,
c'est le swamp, ouais, c'est le bayou, ouais. Il y a vraiment des marais, oui.
Et il y avait des groupes de rock qui venaient jusqu'à chez vous?
Mais non, justement. Non seulement il n'y avait pas de groupe de rock, mais il n'y avait pas Bess, il n'y avait pas Rock'n'Folk, il n'y avait certainement pas le New Musical Express, enfin, il n'y avait rien du tout. Mais alors, par contre, j'ai un grand frère qui a plus de 10 ans que moi et qui avait dans sa jeunesse un magnétophone, un de ces vieux magnétophones à bande, là, où il l'enregistrait. Et il avait un copain qui avait des disques, évidemment. Donc, j'ai grandi en écoutant, mais en écoutant seulement, je précise, les Who, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, enfin, tout ce qu'on veut, etc. et tout. Ça se gravait, mine de rien, dans mon ADN, mais je savais pas du tout à quoi ressemblaient ces gens. Enfin, ni d'où ça venait, c'était juste la bande-son de ma vie, quoi. Et quand j'ai eu 11 ans, mon frère a... Alors, grand changement, mon frère... fait l'acquisition d'un électrophone, un de ces vieux modèles horribles, orange, marron et vert, avec le couvercle qui sert de haut-parleur.
Qu'on appelait les tourne-disques, comme disait ma mère.
Des tourne-disques, voilà. Il a un tourne-disque, et du coup, il a des disques. Et il a pas beaucoup de disques. Il a 3-4 disques, quoi, 5 grand maximum. Et dedans, il y a le premier Stooges. Je sais que ça paraît, on va dire, elle fait son hagiographie, là, la romance, elle raconte des conneries et tout, pour, mais c'est vrai, c'est la vérité. Et donc, moi, évidemment, je tombe en arrêt devant la pochette, pour la première fois, je voyais à quoi ressemblaient les rockers, entre guillemets. Et donc, du coup, après, j'étais foutue pour le reste, un petit peu, oui, c'est vrai.
Ma vie sera rock, ce que vous avez dit. Et comment êtes-vous arrivé à la critique rock? D'ailleurs, c'est quoi pour vous, c'est quoi la définition de votre métier de rock critique? On a parlé de rock critique.
Il faut être passionné par ce qu'on fait, comme les musiciens eux-mêmes. Il faut être passionné par ce qu'on fait. Oui, non, mais évidemment, un minimum de culture est nécessaire, mais on l'acquiert. On l'acquiert même à rebours. Moi, par exemple, je connaissais rien du tout au rock des années 50, puisque c'était pas mes années, ma génération. J'étais pas née. Mais j'ai découvert, grâce à des groupes comme les Cramps, par exemple, qui faisaient beaucoup de reprises de groupes des années 50. Comme dans plein d'autres métiers, comme dans tous les métiers, peut-être le principal, c'est vraiment, vraiment la passion, quoi. Moi, j'avais une petite... J'adorais écrire, je faisais des dissertations, enfin, des rédactions, pas des dissertations. Dès le CM2 et tout, qui n'était pas obligatoire, hein, c'était genre sujet libre, si vous voulez, et tout, et j'en faisais quand même. Donc, on peut dire que j'aimais bien écrire. Après, j'ai eu accès à Best et Rock'n'Folk, justement. Et donc, je découpais les chroniques des deux, trois albums, des quelques albums que j'avais, les premiers, à moi, hein, pas à mon frère. Et puis, j'écrivais la mienne à côté, que je collais, à côté de celle de Best et de Rock'n'Folk. Donc, je pense qu'on peut parler...
Pour dire exactement le contraire, j'espère. Vous aviez déjà cet esprit rock, cet esprit rebelle, Laurence Romance.
Ah bah oui, malheureusement pour mes parents, oui. j'ai bien embêté le monde, oui.
Mais est-ce qu'il y avait des références pour vous dans la critique musicale et notamment dans la critique du rock? Est-ce que Lester Banks, par exemple, existait déjà dans votre esprit? Vous le lisiez, vous?
Mais non, je connaissais pas du tout, ni mon compagnon, ni Ken d'ailleurs, puisque le New Musical Express dans le Pas-de-Calais, faut oublier, quoi. Non, les premières références, ça a été justement des gens comme Philippe Garnier, qui parlait des Cramps et qui était à fond là-dessus, des gens comme Yves Adrien ou Patrick Hudlin qui ont lancé le punk. Donc là, j'étais moi toujours teenager dans le Pas-de-Calais, crevant d'envie d'aller ailleurs parce que coincé là où il se passait rien, au lieu d'être à Paris et d'aller voir je ne sais quoi de punk au Chalet du Lac ou ailleurs. Donc j'étais au fin fond de mon Pas-de-Calais, je faisais du stop pour aller à des concerts d'Aerosmith. La police me ramenait chez moi au bout de trois fois parce que j'étais sur l'autoroute, tout ça, machin. De toute façon, j'avais pas un rond, donc même si on m'avait pris en stop, je serais restée à la porte.
Et Yves Adrien et Patrick Hudlin vont vous connecter à la scène rock, à ce qui se passait?
C'était plus les sujets qu'ils abordaient que les signatures. Avant Best et Rock'n'Folk, j'avais eu accès à un journal qui s'appelait Extra, qui a pas duré très très longtemps, qui était très orienté glam rock, dans le pire, Elton John et compagnie et tout, enfin, le pire, le plus...
populaire, disons-le.
Ouais, mainstream un petit peu terne, et dans le mieux, Alice Cooper. Et là, j'étais devenue, c'est vers mes 13-14 ans, j'étais devenue totalement fan d'Alice Cooper. Et donc, du coup, Extra, je... Et puis, évidemment, Suzy Quatro, comme en plus c'était une fille, mon héroïne.
Le plaisir, il venait de l'écriture ou d'aller à la rencontre des musiciens, d'aller assister à des concerts, d'écouter des disques, Laurence Romance?
Au départ, non, je voulais voir des concerts. Au départ, je savais pas. J'étais là, en train d'écouter mes disques, et puis en me disant, je suis pas là où ça se passe. Il faut que je sois là où ça se passe, d'où les essais en stop pour aller voir Aerosmith aux abattoirs de Pantin, infructueux, hélas. Et donc, non, au départ, il n'y avait aucune idée précise, c'est juste... J'ai été aussi, attention, ouais, je pense que je dois avoir été la seule abonnée du Pas-de-Calais, à un magazine éphémère qui s'appelait Rock News, qui était fait par Michel Esteban et Lizzie Mercier des Clous. Michel Esteban est devenu plus tard le boss de The Records. Et Lizzie Mercier des Clous a fait une très jolie carrière. Elle est aujourd'hui décédée, je crois.
Elle a regretté, oui, bien sûr.
Elle a regretté, Lizzie Mercier des Clous. Et donc, eux, là, c'est un petit peu plus tard, c'était vers 75, 76. ils étaient à fond dans la scène, mais new-yorkaise. Il n'y avait pas encore eu la déflagration du punk anglais. Donc ce n'était que les Ramones, Blondie, Lou Reed, Patti Smith, Television, Richard Hell, etc. et tout. Et moi, je dévorais ça et j'étais toujours là, dans le Pas-de-Calais, en train de me dire mais il faut que j'y sois, il faut que j'y sois. Donc la première ville la plus proche, c'était Lille. Je suis allée à Lille. De Lille, c'est absolument génial parce qu'on n'est pas très loin de la Belgique et là, possibilité de voir plein de concerts, parce que les tournées passaient souvent en Belgique avant d'aller à Paris. Donc j'ai pu voir les Runaways, Patti Smith, ainsi de suite. J'ai même vu AC/DC en première partie de quelqu'un d'autre, avec Bon Scott, le chanteur légendaire d'AC/DC. Enfin bref, voilà, non, il n'y avait pas d'intention de « je vais faire ça, je vais écrire » ou « je voulais juste être dedans, d'une façon ou d'une autre ».
Courtney Love, la sulfureuse veuve de Kurt Cobain, traîne toujours sa réputation de harpie rock infréquentable. Mais ça ne devrait plus durer longtemps à présent qu'elle crève l'écran dans le nouveau film de Milos Forman, People vs Larry Flint. N'allez pas vous imaginer pour autant que Courtney a abandonné le rock. Le nouvel album de Hole est annoncé pour ce printemps. Il devrait normalement être produit par Billy Corgan, des Smashing Pumpkins. Mais laissons plutôt l'intéressée vous expliquer tout ça elle-même. Non sans ajouter que nous sommes évidemment ravis d'avoir célébré nos retrouvailles avec l'incontournable Courtney, qu'on n'avait pas vu depuis un bail à Rock Express. D'autant que vous allez voir tout de suite, elle est toujours aussi bavarde.
Voilà, c'était Laurence Romance à la télé en 1997 sur M6, puisque vous aviez une émission qui passait très tard la nuit, Rock Express. Mais avant d'arriver à la télé, Laurence Romance, vous étiez déjà devenue une signature dans les grands magazines musicaux, puisqu'il y avait, c'était encore l'âge d'or de la presse musicale en France.
C'était encore l'âge d'or de la presse musicale
Et surtout, vous étiez...
Et il y avait encore une industrie du disque, voilà, également, avec des voyages de presse, ouais, où les journalistes pouvaient aller voir tel ou tel concert et interviewer tel ou tel artiste et tout, ce qui n'existe absolument plus aujourd'hui.
On vient de vous entendre parler de Courtney Love, c'est-à-dire vous mélangez un peu le côté people, qui elle est.
Ça c'est Courtney Love qui s'est elle-même, qui a elle-même maintenant, elle est plus connue pour assister au défilé de Christian Dior que pour sa musique, ce que je regrette profondément parce que elle aurait dû continuer à faire de la musique pour moi. Et non pas se complaire à ces conneries de mode. Mais à Libé, ça s'est passé tout naturellement. C'est qu'il n'y avait personne, donc j'ai pris la place.
C'est quoi un écrit rock pour vous, Laurence Romance? C'est de raconter votre rencontre avec les groupes?
Difficile à dire. Pour moi, c'est du journalisme, ni plus ni moins. C'est Philippe Garnier, je crois, qui a dit « Tout journaliste devrait trouver un angle, y compris sur la route 66. » Et donc, j'ai gardé cette devise en tête. Non, mais bon, j'ai pas écrit que sur le rock, j'ai écrit aussi sur des sujets de société.
On y arrive.
Oui. Non, mais dans tous les cas, il n'y a pas 15 000 approches. C'est toujours... Soit vous avez une interview... Il y a une interview avec questions-réponses, qui est le plus classique, mais bon, pas forcément très inventif. Soit vous incorporez les propos dans un article. Il faut qu'il y ait votre personnalité dedans. Sinon, j'ai une anecdote, il n'y a pas longtemps sur les réseaux sociaux, il y a un type qui met un post et tout, en m'attaquant un peu sur un bouquin qui va sortir au sujet des rock critiques, justement, en disant, ça me rappelle...
Gonzaï édition, on l'attend avec impatience. D'ailleurs, il sort la semaine prochaine.
Profession rock critique qui sort la semaine prochaine. Oui. Et donc, les mecs de Gonzaï mettent un truc sur les réseaux sociaux. Il y a un type qui tient un blog qui vient dire, très bien, merci, ça me rappelle pourquoi je lis plus la presse musicale. Et donc, du coup, moi, par curiosité, je vais voir son blog. Et son blog, c'était que des choses genre tel groupe formé en telle année à Los Angeles a sorti. C'était une fiche Wikipédia, des fiches Wikipédia. Et donc, du coup, le type, il m'a empêché de lui répondre parce que je sais pas ce qu'il a fait comme manip, j'y connais rien.
Vous pouvez lui répondre là. Pour vous, la définition de...
Oui, non, mais il mérite même pas qu'on lui réponde. Mais, donc du coup, là, le type me disait d'un côté, merci de m'apporter la preuve, merci de m'apporter une raison supplémentaire pour ne plus lire la presse musicale, et je vais voir son blog, et c'était chiant comme la pluie, franchement. C'était une fiche Wikipédia. Non. Il faut quand même qu'il y ait de la personnalité. il faut quand même qu'il y ait votre personnalité. Je me souviens quand j'étais seulement lectrice, et même après d'ailleurs, des gens pouvaient, des signatures pouvaient m'énerver, j'étais pas d'accord avec eux, ou alors j'étais super d'accord, et, etc. Et ça me touchait profondément et tout. Mais il faut qu'il y ait, il faut qu'il y ait quelque chose qui passe. Mais s'il y a rien qui, si c'est machin s'est formé en telle année et a fait tant d'albums et tout, on s'en fiche, c'est maintenant c'est dans Wikipédia.
Laurence Romance, vous avez épousé Nick Quint, qui lui-même est un grand rock critique, mais anglais, british.
Et pas seulement, ouais. Ouais. Mmh. Maintenant un auteur plutôt. Oui.
Ben bah, vous aussi d'ailleurs, vous êtes passé aussi
non,
au livre.
Non, pour
à
l'instant,
la traduction.
J'ai pas encore écrit mon deux livres. On m'encourage vachement et donc je suis super contente en ce moment parce que Je suis pas la fille avec le plus de motivation au monde. À chaque fois, je me dis ouais, tout le monde s'en fout. Je reprends la citation de Céline, la postérité c'est pour les asticots, etc. Et donc en fait, bon, je suis une grosse flemmasse aussi. Et mais là, tout le monde me dit mais bon, fais ton bouquin et tout. Donc, finalement, ça... encouragé par mes potes, je vais sans doute m'y mettre. Quant à Nick, oui, bah évidemment, oui, c'est mon homme depuis une trentaine d'années. C'était le réalisateur de Rock Express. Ça, c'est très très important à dire parce que on avait une seule caméra. Les gens pensaient qu'on en avait trois. Grâce à son excellent travail de montage, il faisait de la dentelle en studio. Et puis aussi, on avait une équipe de fous, de passionnés. C'est pour ça que le mot principal, c'est, ça devrait être passion.
Comment écrire sur le rock?
Il n'y a pas de méthode. Chacun trouve la sienne, à mon avis. Je ne sais pas, moi j'ai suivi les règles.
Il n'y a pas de méthode, mais il y a quelques repères, non, pour vous?
Bien sûr, oui, bien sûr, oui. Par exemple, à Libé, il y avait la ligne, à l'époque, à l'âge d'or de ouais. Libération, où le chef du service musique, c'était Bayon, Bruno Bayon. La ligne était celle de Bayon, qu'il avait lui-même hérité de Lester Bangs, et qui était... Tout artiste est coupable avant de... Non, pas de copinage. Les deux ennemis de la critique rock sont la promotion et l'hermétisme. Bon, l'hermétisme, il pouvait parler parce que lui, il faisait des articles un petit peu imbitables ouais. De temps en temps. Mais bon, mais donc voilà, vouvoiement, en interview, même si on a tutoyé, évidemment, ça vaut que pour les Français, puisque en anglais, c'est le « you », quelques trucs de base... Mais de pas, c'est pas avec tout le respect et l'affection que j'ai pour lui, parce que je le connais, Laurent Boyer, l'ami des stars, Fréquence Star, c'est on n'est pas potes. C'est un monde différent. Quand j'ai commencé à être trop copine avec Étienne Dao, j'ai passé la main, j'ai dit à Bruno Bayon, mon chef, je dis écoute, il faut que tu demandes à quelqu'un d'autre d'écrire sur lui. Moi, je peux plus, puisque on est trop potes, donc soit je serais hypocrite en disant que c'est bien si jamais j'ai des réserves sur un de ses albums, ou soit je me fâcherais, donc autant passer la main et voilà quoi.
Michel Polnareff, vous l'avez rencontré et pour lui, il l'a raconté, il s'est confié, ça a été un moment terrible dans sa vie. Comment vous avez pu le troubler à ce point, Laurent Romance? Qu'est-ce que vous avez sorti?
Il m'a troublé beaucoup aussi. Hein.
Ouais.
Il m'a troublé beaucoup aussi. Non, mais c'était très rigolo. C'était à l'époque de son comeback au début des années 90. Il était installé au Royal Monceau. Il avait installé un studio au Royal Monceau. Sa maison de disques, Sony CBS à l'époque, avait très peur que ça ne marche pas. Et moi, je devais faire un papier pour l'édition française, la toute première édition française de Rolling Stone, dont le rédacteur en chef était le regretté Lionel Rodcage, le fils de Régine, qui était un mec génial, qui m'a donné ma chance pour écrire sur d'autres trucs que le rock, des sujets de société, etc. et tout. Bref. Et donc, et où aussi on pouvait faire des articles de fond. 30 feuillets et tout, ça, Polnareff, c'est ça, quoi. Et donc, il y avait eu une espèce de teasing ridicule où ça avait duré 3 semaines, où j'essayais d'avoir Polnareff, tout comme l'attaché de presse de la maison de disques, personne n'arrivait à le joindre et tout, et tout le monde me disait « mais tu n'y arriveras pas par les voies normales, tu dois aller à l'hôtel Royal Monceau, sinon tu le verras jamais ». Quoi. Donc je suis allée à l'hôtel Royal Monceau, en mode Philippe Marlowe. Je l'ai reconnu au bout de 2 jours. Pas le premier jour, mais au bout de 2 jours. Merde, c'est le mec, c'est le nain en jogging là avec des lunettes et tout. Il était barbu, ouais. Des lunettes qui lui mangent la figure. Oui, c'était lui. Et ensuite, bon, je passe les détails, mais ça s'est fini par une non-interview parce qu'il savait que j'avais entre-temps téléphoné à plein de gens autour. Il dit, vous n'aurez rien de moi. Vous avez parlé. Vous avez balancé, donc je ne dirai rien, tout, etc. Enfin, c'était très comique, rétrospectivement, mais sur le coup, j'étais débutante, moi. Je suis rentrée chez moi en pleurs un peu, hein, parce que quand même, on s'est...
Et vous avez publié l'article, bien sûr.
Eh bien, Lionel a été absolument génial sur le coup, puisqu'il m'a laissé me calmer, ben, parce que je l'ai appelé le lendemain en lui disant, il n'y a pas d'article, j'ai pas fait d'interview. L'autre, il a arrêté mon magnétophone en disant, vous allez écrire avec une plume et faire des déliés, tout. Si je lui posais une question sur son contrat, la nature de son contrat, il me répondait, est-ce que je vous ai demandé la couleur de votre culotte? Enfin bon, ce genre de choses. Et tout ça, c'était à 2h du matin, hein, alors que t'es arrivé avec l'attaché de presse à 8h du soir. Donc le lendemain, j'appelle en disant, il n'y a pas d'article. Et donc, il m'a laissé me calmer pendant 2-3 jours et il m'a dit, rappeler Lionel en me disant bah écoute tu racontes comment il y a pas d'article, tu racontes juste ce que tu m'as dit sans haine ni passion et donc ça fera un bon article et ça fait effectivement bon, un super bon article.
Bah oui, puisqu'il en parle encore aujourd'hui, Michel Polnareff.
Et Michel, oui Michel était très, alors la maison de disques avait très peur à la sortie de l'article et Michel qui est dingue, Polna était à la stupéfaction de la maison de disques, il était content parce que je l'avais comparé à Michael Jackson en disant qu'il était quasi aussi dingue, voire plus dingue. Donc il était content. Mais maintenant, dans la biographie de mon confrère Philippe Manœuvre, je suis, à ce qu'il dit, son pire souvenir journalistique. Donc au moins, j'ai laissé une marque.
Vous écrivez sur les rockers, mais vous écrivez aussi sur d'autres personnages qui sont, d'une manière ou d'une autre, marqués par la culture rock. Par exemple, ce grand criminel qu'est Charles Manson. C'est le dernier livre traduit par vous, Laurence Romance, Charles Manson par lui-même. L'autobiographie autorisée, en fait, ce sont des propos recueillis par un ancien ami de prison, Newell Emmons. Ça sort chez Séguier et on apprend que, bah oui, Charles Manson est aussi un produit du rock.
Absolument, absolument. Charles Manson voulait être une star du rock. Il y a beaucoup de théories visant à expliquer le pourquoi du comment des abominables meurtres de Sharon Tate et ses amis, et le lendemain, la Bianca, etc., etc. Mais celle qui reste la plus répandue et, à mon humble avis, la plus crédible, c'est que le mec a pété les plombs à force d'être rejeté. C'est la même théorie que Neil Young, hein, que la mienne. À force d'être rejeté dans ses efforts pour devenir une rockstar. Charles Manson vient des années 50, et donc ça ressemblait pas mal à Frankie Lane, qui est quelqu'un dont ça dira rien à personne, ou pas à grand monde. Mais Neil Young lui-même, par exemple, avait fait le siège de sa maison de disques à lui, pour essayer de faire signer Charles Manson. Mais ce qui s'était passé, c'est que Charles Manson était absolument ingérable en studio. Ce que Neil Young a dit, il est très très bon, c'est un rappeur avant la lettre, il a un flow, il improvise, il est absolument génial, mais on peut pas l'enregistrer en studio. Les ingénieurs du son des Beach Boys ont essayé, puis il avait des relations avec le batteur des Beach Boys, en particulier Dennis Wilson. Et bon, bah déjà, il se ramenait avec toute sa famille, 25 personnes, donc ça faisait un peu désordre. Mais ensuite et surtout, c'est que il voulait pas entendre le moindre conseil sur la prise de voix, etc. quoi. Mais oui, bien sûr, Charles Manson, il est incroyablement lié à la musique. Il aurait une autre théorie, c'est Helter Skelter, la chanson des Beatles, l'album blanc l'aurait transfiguré, il se serait reconnu dans l'album blanc qui lui envoyait des messages à lui, Charles Manson, pour commettre, et en particulier la chanson Helter Skelter.
Le réveil culturel de Tofik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr.
Et voilà, on n'aura pas le temps de parler de Nirvana, de vos rencontres avec Nirvana, Laurence Romance, de vos aventures avec Lou Reed, mais effectivement, ce livre, Charles Manson par lui-même, vous êtes battu d'ailleurs pour qu'il soit publié en France.
Parce que c'est un super bouquin.
Et c'est un super bouquin, et que vous avez traduit. C'est aux éditions Séguier. On attend aussi, bien sûr, le livre Rock Critique chez Gonzaï Éditions qui sort la semaine prochaine. Merci beaucoup, Laurence Romance, d'être passée ce
Merci
matin.
Merci, Toufik. Et vraiment, Charles Manson, c'est un super bouquin. Sinon, je n'aurais pas traduit et je ne me serais pas battue autant pour le traduire et pour trouver un éditeur. C'est un super bouquin qui se lit d'une traite, très très facilement, et qui est complètement rock.